Bonjour et bienvenue à l'Institut des Libertés, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Avant toute chose, j'aimerais vous présenter l'incorrect, où vous voyez le vénérable octogénaire qui a commis avec Philippe Diribarne cet échange qui s'appelle « La France face au chaos mondial ». Et je dois dire qu'il y a une vingtaine de pages.
Oui, c'est très bien. Et Philippe Diribarne est un de ces grands intellectuels, si vous voulez. Il a été dans tous les projets internationaux. Et c'est un homme absolument délicieux avec qui discuter parce que il est de bonne foi, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il cherche pas à prouver qu'il a eu raison, etc. Donc on a eu une discussion intéressante, ouverte. Et moi, j'ai trouvé ça passionnant parce que j'avais en face de moi un de ces hommes qui a été, dans le fond, dans toutes les grandes opérations de la diplomatie française depuis... il a le même âge que moi, donc depuis 65 ou 64, quoi. Et il était à Toulouse, d'ailleurs, à un moment où j'y étais moi aussi. Il était en contact avec un de mes professeurs qui s'appelait M. Vincent, donc il connaissait bien M. Vincent. Donc, si vous voulez, on a vécu la même époque.
Mais pas de la même façon.
Pas de la même façon. Moi, je l'ai vécu comme un corsaire, lui comme un marin de la Royale, quoi. Et donc, mais c'était très intéressant parce que c'est toujours agréable de discuter avec quelqu'un d'abord d'intelligent, qui a essayé de faire du bon boulot, qui a fait du bon boulot, et qui regarde avec intérêt ce qu'il a fait.
Alors, c'est rigolo parce que dans les photos, effectivement, tu es un peu plus grimé comme un boucanier
j'ai toujours été un type d'une honnêteté parfaite, mais j'ai toujours été, si j'ose dire, un corsaire. Un corsaire, c'était un type qui abordait les galions chargés d'or de l'Espagne, mais qui n'était pas un pirate, qu'il faisait pour le compte du roi de France. Donc, moi, j'ai toujours été un indépendant. Et quand j'étais au conseil de SCORE, quand je suis sorti du conseil de SCORE, je leur ai dit que c'était amusant, parce que moi, j'ai toujours travaillé léger. Et là, je voyais les rouages d'une organisation qui avait des bureaux partout et tout. Donc, ça m'a beaucoup intéressé. Mais je ne m'imaginais pas bossant dedans, tu vois.
C'était... Oui, ça aurait été une contrainte à vivre. Le vivre de l'extérieur pour 5 ans, c'était marrant.
Mais parce que tu vois la façon dont ils avancent.
Et puis, tu as eu la chance de le voir par le haut. Aurais-tu dû monter tout?
Ça aurait été affreux. J'aurais pas pu monter, parce que je ne sais pas faire ça.
Ouais.
Donc, ce que je veux dire, c'est que là, j'ai eu... Donc, c'était une expérience et c'est une bonne interview. D'abord, elle a été bien menée par Vatrigan, là.
Arthur de Vatrigan, vous retrouvez aussi sur CNews.
Il l'a fait avec gentillesse. Et c'est un peu ce que j'ai eu aussi chez Légende. C'est-à-dire, quand vous intervenez avec gentillesse, vous pouvez vous laisser aller à être gentil aussi. Donc, c'est ce qu'étaient autrefois les journalistes, c'est qu'ils essayaient de faire parler des témoins. Et aujourd'hui, vous avez des journalistes qui cherchent à expliquer que vous avez été un salaud toute votre vie.
Non seulement ça, mais je déplore aujourd'hui que certains petits roquets, qui ne sont même pas des journalistes quand même, appelons-le, cherchent le putsch, la petite punchline au mépris d'une interview de qualité. Je veux dire, quand on te fait venir toi, on te fait venir pour 50 ans d'expérience de marché. Je ne veux pas avoir un crétin qui a arrêté l'école et qui n'a plus rien lu depuis au brevet, venir te dire « Quelles sont vos sources, Charles Gave ?» Mes sources, ça fait 50 ans que je suis dans le business du con. Non mais au bout d'un moment, tu vois, moi, quand mon dentiste me dit « Je suis désolé, cette dent, faut la dévitaliser, on va la couronner », je lui dis pas quelles sont vos sources. Je pars du principe que si je vais chez mon dentiste, c'est quand même qu'il en sait un peu plus que moi, sinon j'y vais pas.
Et si on m'interroge, c'est que peut-être j'ai des choses que j'ai traversées dont les gens ne se souviennent pas, parce que ça, c'est un truc important.
Non, puis tout n'est pas fiché comme un truc Wikipédia. Je ne vais pas vous dire, je l'ai appris le 2 mars 86, voilà l'affiche, c'était page 206.
C'était pas... Et puis tu apprends par les fiches, tu apprends par l'expérience. Mais surtout, quand vous êtes dans ces métiers-là, tu te rends compte d'un truc qui est précieux aujourd'hui dans la boîte que j'ai créée avec Louis. C'est que, pour moi, c'est ma vie. Pour la quasi-totalité des autres, c'est de l'histoire. Ils sont très intéressés de voir comment quelqu'un, tu vois, a traversé des périodes historiques. Tu vois, c'est, pour eux, si le krach de 87, ça s'est passé quasiment le jour de ma naissance, quoi, tu vois. Donc, ils n'ont pas vécu, mais être passé de krach en krach comme ça, avoir appris des trucs, avoir la gueule en sang, ben oui, être un témoin, ça a de la valeur.
Voilà, donc, en attendant...
Ils m'ont mis un cigare parce que je suis l'horrible capitaliste contre le gentil voilà. fonctionnaire.
Et avant que nous rentrions dans la leçon du jour, qui est les marchés haussiers schumpeteriens et les marchés haussiers ricardiens, qui sont quand même très importants, dont on parle là-dedans, voilà la une de l'incorrect que je ne saurais trop vous engager à aller acheter. Alors, Charles, revenons sur le sujet du jour, qui est l'incroyable... croissance qui est en cours en Asie aujourd'hui et en Inde, et la distinction qu'il existe aujourd'hui entre ces deux croissances, si tu voulais bien revenir, donc ce qu'est une croissance schumpeterienne et ce qu'est une croissance ricardienne.
Bon, les deux sources de croissance, c'est soit l'invention, l'esprit humain qui trouve quelque chose, ou la communication qui s'améliore entre des gens qui sont amenés à faire des choses différentes. Donc vous avez la croissance par l'invention, qui en général est impopulaire, crée des écarts de revenus monstrueux, parce que les inventeurs s'en mettent plein les fouilles, c'est normal. Hein, c'est... Et puis la croissance ricardienne, qui est une meilleure utilisation du travail, du capital et de la terre par une meilleure organisation presque géographique. On bâtit des routes, des trains, des tout ça. Et ça, c'est en général populaire. Et donc les Trente Glorieuses, par exemple, c'était l'exemple même d'une croissance ricardienne. Et puis l'autre, la croissance schumpeterienne, c'est ce qu'on a eu un petit peu avec l'Internet depuis 10-15 ans. Ça a fait des malheureux. Hein.
Il y a une invention de rupture. C'est-à-dire que tout à coup, on passe des machines, enfin, on passe du cheval à la machine à vapeur.
À la machine à vapeur, et donc ça crée des chemins de fer, etc. C'est tout à fait... Et à ce moment-là, il y a des secteurs qui arrivent qui n'existaient pas il y a 10 ans avant ou 20 ans avant.
On l'a vu récemment pour Internet, pour ma génération, la génération X, on a vu véritablement
l'arrivée d'Internet.
Voilà, la création.
La création à partir de rien. Bon. Et ça, c'est un truc schumpeterien. Et en général, une croissance schumpeterienne, si tu veux, ça fait beaucoup de dislocations. Donc, ça amène souvent des troubles sociaux parce que les anciens qui faisaient des diligences, ils ne servent plus à rien. Donc, ils gueulent dans la rue, il y a des bons.
Ah bah c'est sûr que les fabricants de fax ont sûrement mal vécu l'arrivée d'Internet.
Exactement. Ça, c'est la même chose. Ils ont tous disparu. Et la deuxième chose aussi, c'est comme c'est des inventions qui sont faites ponctuellement. Très souvent, ça amène à une très forte disparité dans les revenus sociaux. C'est-à-dire que les inventeurs deviennent riches comme des puits, et puis les gars qui sont détruits, ils ne deviennent pas riches, les pauvres. Et donc, c'est vraiment un phénomène disruptif, tu vois. C'est vraiment un... Et on est peut-être en train de rentrer dans une nouvelle édition de ça avec l'intelligence artificielle, parce que l'avenir va nous dire ça. Mais...
Est-ce que tu as vu hier que Google allait emprunter énormément pour le devenir de son IA?
Oui,
elle va emprunter plus que son capital social, je crois.
Oui, mais c'est-à-dire qu'on en a souvent parlé. L'Internet, ça s'est développé, mais c'était pas très cher. Il n'y avait pas d'immenses investissements à faire. Et donc, la rentabilité de l'Internet a été extraordinairement forte parce que justement, ça coûtait pas très cher à mettre en place et que les meilleurs vont gagner, les Google, etc. Et ils sont devenus très puissants. Mais contrairement à l'Internet, l'intelligence artificielle, ça exige des investissements gigantesques. Donc, ça m'étonnerait que la rentabilité du capital investi soit la même que celle de l'Internet. Tu vois, parce qu'il faudra investir tellement de capital que tu vas te retrouver plutôt dans le cas de la sidérurgie que dans le cas de l'Internet, tu vois, avec une capitaine. Et donc, je suis pas du tout certain que les actions d'intelligence artificielle vont gagner tellement d'argent que ça, parce que d'abord, elles vont devoir investir des capitaux absolument gigantesques. Bon, ça, c'est... Donc ça, c'est la première forme. La deuxième forme, c'est Ricardo, qui se produit quand... tu bâtis un pont entre les deux rives du Rhône et Avignon. Tu vois, avant ça, avant que tu bâtisses ce pont, c'est Saint-Bénézé qui l'a fait, je crois, il fallait, pour traverser le Rhône, remonter jusqu'à Lyon. Donc, tu avais des barques qui traversaient et tout, bon, c'était pas pratique. Donc, tu fais un pont, et d'un seul coup, le Languedoc peut parler à la province, à la Provence. Et d'ailleurs, il se met à faire du commerce entre les deux, et chacun fait le mieux ce qu'il fait, et c'est ce qu'on appelle la loi des avantages comparatifs.
Donc là, c'est Ricardo.
Ça, c'est Ricardo. Et ça, c'est plutôt populaire, parce que t'as des marchands qui se mettent en route, qui commencent à... Le niveau de vie général monte.
Oui, et puis il n'y a rien qui casse tout à coup.
Il n'y a rien qui casse. C'est juste...
On accroît. On comprend bien.
Tu fais mieux ce que tu fais, tu le vends mieux. Donc tout le monde... Donc, une croissance ricardienne est en général assez populaire. Une croissance schumpeterienne, pas tant que ça, quoi.
Sauf pour ceux qui en bénéficient directement.
Sauf pour les inventeurs et très souvent les consommateurs, dont ça change la vie, si tu veux.
C'est sûr qu'on ne reviendrait pas à l'avant Internet.
Tu ne reviendrais pas à l'avant Internet. Et puis, y a des tas de. Mais dans l'Internet, il y a des tas de boulots qui ont disparu. Par exemple, je ne sais pas, mais les secrétaires, plus personne n'a de secrétaire. Enfin, si, il y a peut-être quelques gars qui ont des secrétaires, mais j'en sais rien. Alors,
j'ai appris, figure-toi, dans la série, pardon, mais ça me fait penser à un ancien ami à toi dont je ne dévoilerai pas le nom, mais que Jack Lang, par exemple, parce qu'on parlait de lui là récemment, encore à l'Institut du Monde Arabe, enfin jusqu'à avant-hier, venait au bureau et se faisait imprimer tous ses emails qu'on lui faisait mettre dans des parapheurs, répondait aux emails
à la main,
et sa secrétaire ensuite tapait les réponses aux emails. Donc voilà, pour te dire qu'il y a encore ces gens-là.
Mais il a quel âge? Il a 92 ans, je ne sais pas quel âge il a.
Oui, mais enfin...
Il aurait pu apprendre.
Hein. Tu réponds tout toi-même. Personne t'a appris. De nos jours, avec Word, enfin, à partir du moment où Word a été créé, ça c'est pour la création de documents, et Gmail...
Ne pas répondre, c'est de la bêtise. Alors... Donc, ce que je vais développer comme thèse aujourd'hui, c'est que depuis un certain temps, depuis le début du XXIe siècle, on a une coexistence d'une croissance schumpeterienne aux États-Unis et d'une croissance ricardienne en Chine. Tu vois, donc, il y a les deux qui ont été en même temps. Et il y a des cycles où de temps en temps les marchés se précipitent sur la croissance schumpeterienne aux États-Unis, puis ils reviennent sur la croissance ricardienne. Et la thèse que je vais développer, c'est qu'avec le développement de ce que j'ai appelé le cercle de Valéry Pieris, là, on va rentrer dans une accélération de la croissance ricardienne en Asie. Tu sais, c'est la thèse que je développe depuis longtemps. Et je vais vous montrer la façon dont les marchés réagissent à ça, parce que c'est... Donc je tire un graphique, c'est plus pour illustration que pour démonstration formelle, mais je crois que ça remonte bien là. Alors ce graphique est assez simple, il va apparaître sur vos... vous avez le marché rouge, qui est le marché chinois, dividendes réinvestis en dollars. Et le marché bleu, c'est le marché, le Standard & Poor's 500. Et en bas, vous avez le ratio entre les deux. Donc, ce que je dis comme ça, c'est plutôt à vue de nez qu'une démonstration, mais c'est pour vous montrer. Vous voyez bien que dans les années d'Internet, qui vont de 1993 à 2000, hein, le marché américain, le ratio à la ligne noire, monte beaucoup. Ça veut dire que c'est une croissance schumpeterienne, tu vois, Et puis, la Chine rentre dans le WTO, l'Organisation du Commerce Mondial, en 2002-2003, et pan, vous voyez la ligne rouge qui pète à la hausse, et la ligne bleue qui fait plus rien. Donc là, c'est vraiment une croissance ricardienne. La Chine, pendant ces 10 ou 15 ans, fait des investissements d'infrastructures, de routes, d'hôpitaux, d'aéroports, de chemins de fer, d'avions, tout ça, absolument inimaginable. Donc on a une très forte, heureusement. Et puis bon, ben, cette croissance ricardienne trouve ses limites, parce qu'il y a assez d'un seul coup, il y a assez d'immeubles, il y a assez de routes qui ont été faites, donc la bourse de Chine arrête de monter, et c'est à ce moment-là où on a la deuxième croissance schumpeterienne qui arrive, la ligne bleue qui passe au travers du toit, et ça, c'est simplement l'arrivée de la globalisation et de l'intelligence artificielle. Donc là, on a une très longue période de croissance schumpeterienne là. Et depuis à peu près donc 2022-2023, tu vois que la ligne noire recommence à baisser, c'est-à-dire que la Chine commence à faire mieux que les États-Unis à nouveau. Donc ce que j'essaie de dire, c'est en quelque sorte. Quand la ligne noire monte, il faut être aux États-Unis. Quand la ligne noire baisse, il faut être en Chine. Quand la ligne noire monte, il faut être aux États-Unis. Quand la ligne noire baisse, il faut être aux États-Unis. Et il me semble qu'aujourd'hui, tout est en place pour qu'on ait un véritable boom en Asie du Sud-Est et en Inde. Et donc, il me semblerait logique que la ligne noire continue à baisser comme ça, c'est-à-dire favorisant la Chine. Et comme tu vois, depuis 1995 à peu près, ça doit faire à peu près 30 ans, quoi, 35 ans, je sais plus, tu vois que la ligne est à peu près horizontale, quoi.
Oui.
C'est-à-dire que la rentabilité du capital investi, quand ça monte plus aux États-Unis, pouf, tu vas aux États-Unis, mais finalement, il y a une limite, et donc tu retombes en Chine, et les deux vont pareil. Donc si on c'est pour ça que je sais qu'aujourd'hui, la quasi-totalité des gérants dans le monde ont des actions américaines, mais pour ainsi dire, personne n'a des actions chinoises.
Oui.
Ce qui est un autre truc. Donc il me semble que on va vers une période de croissance ricardienne très forte. Et qu'est-ce que ça sera centré en Asie. Bon, donc, il faut bien comprendre ça. Donc, on rentre dans une croissance ricardienne. Et c'est vieux comme les rues, ce truc. Parce que je me souviens quand j'ai étudié l'économie à Toulouse l'année dernière.
Hein, oui, c'est ça.
il y a 60 ans, je ne sais pas combien de temps. Oui, c'est ça, 60 ans. Il y avait un professeur qui nous avait dit quelque chose qui m'avait beaucoup intéressé, c'est que l'Europe s'est complètement effondrée avec l'Empire romain. Tu vois, puis il y a eu une espèce de... Tout le monde est retombé en autarcie, quoi. Tout le monde vivait. Et puis à partir du 10e, 11e, on a vu des ponts qui commençaient à être reconstruits à Florence, en Italie du Nord, à Avignon, etc. Et c'était le signe que les gens recommençaient à faire du commerce avec le gars du village d'à côté, tu vois.
Alors, c'est... juste à parté, mais pourquoi ça s'est effondré d'un coup après l'Empire romain? Est-ce que c'est parce que d'un coup ils n'ont plus eu le système monétaire?
Il n'y avait plus de système de monétaire, mais il y avait aussi, non seulement pas de système monétaire, mais ils n'avaient aussi plus personne à entretenir les routes.
Oui, mais pourquoi est-ce que localement, je sais pas, les baronnies ne se sont pas occupées?
Mais oui, mais les baronnies, elles se mettaient. Mais la première chose qu'elles faisaient, une baronnie, c'est que s'il y avait un pont qui traversait la rivière, elle mettait un péage. Mm. Et donc, tu pouvais pas passer parce que c'était trop cher. Donc, et puis,
ce qui se passait aussi, c'est que quand les Romains sont arrivés, ils ont fait des infrastructures gratuites.
Mais ils ont fait des infrastructures et ils maintenaient l'ordre. Il y avait pas de brigands sur les routes, il y avait pas de... Tandis que là, Et puis, les villes ont disparu, parce que les villes ne vivent que du produit de la campagne qui est autour d'elles. Mais si la campagne ne produit plus rien, ben la ville disparaît. Donc, il y a des villes comme Rome sont passées d'un million d'habitants à 30 000 habitants. Il n'y avait plus personne à Rome. Donc, à ce moment-là, quand tu commences à voir les gens rebâtir des routes, c'est un bon signe.
Pour ta croissance ricardienne.
Pour ta croissance ricardienne, ça veut dire que les gens recommencent à faire du commerce. Et à ce moment-là, sont à Paris aussi, dans le nord de la France, les grandes foires de champagne. Ouais. C'est-à-dire que tu avais des gens qui arrivaient de la vallée du Rhin, de la vallée du Rhône, de la région de Bruges et tout ça, et qui se mettaient... Oui, ils commençaient à montrer leurs produits, quoi. Et sont à Paris aussi des zones de paix civile, où il y avait la ville de Florence qui maintenait l'ordre dans un rayon de 50 km autour de chez elle qui pour chasser les bandits, tu vois. Donc, y a, par exemple, comment elle s'appelle cette ville à côté d'Avignon qui est tout en haut, là, la ville médiévale
Les Baux.
Les Baux. Ben, les Baux de Provence, c'est là où il y avait le roi des brigands, etc., qui faisait des razzias sur tout le monde.
Bah oui, pour aller le chercher après.
Bah oui, malin. Pour faire les grapper, c'était. Mm. Et c'était les ancêtres de la famille de Monaco.
Ah.
Par hasard, tu vois. Enfin, je dis ça en 10 ans, mais tu vois, à partir du moment où t'as réussi à liquider les méchants là-haut, t'as pu commencer à refaire du commerce dans la vallée du Rhône, quoi. C'était. Donc. Ça a besoin de routes, d'ordre, d'éviter que les brigands ne te volent trop, donc de paix civile. Donc, ça s'est produit à partir du 2e au 13e. Mais maintenant, ce qui se passe, comme je l'ai dit souvent, c'est que cette zone autour de la vallée Ripieris, autour de Hong Kong, c'était une zone qui, pour des raisons géopolitiques, était obligée de faire du commerce en dollars. parce que ils avaient leur énergie. Et puis donc, même pour faire du commerce entre la Thaïlande et l'Indonésie, ils passaient par le dollar.
Oui, on l'a vu plein de fois parce que ils se sont pétrole, réunis sur un bateau après la Seconde Guerre mondiale et ils ont dit voilà, ça va se passer comme ça. Bon.
Donc, mais maintenant c'est fini. Donc ils vont faire du commerce dans leur monnaie avec des accords de swap entre banques centrales. J'ai expliqué ce que c'était. Et donc, en quelque sorte, le monopole du paiement du dollar qu'avait le dollar sur le pétrole, c'est fini. Et SWIFT, c'est fini.
Ouais.
Les deux sont morts. Parce que le SWIFT est remplacé par des accords de swap entre banques centrales. C'est-à-dire que, pour l'expliquer simplement, la banque centrale chinoise emprunte des tas de roupias indonésienne, et puis donne en contrepartie des yuan, et comme ça, tu as deux gros dépôts dans la banque centrale chinoise, tu as un gros dépôt en Indonésie, et donc les exportateurs d'Indonésie vers la Chine, ils sont payés directement en monnaie nationale, donc ils n'ont pas besoin de passer par le dollar, et puis les exportateurs chinois, comme l'autre banque centrale a des gros dépôts en yuan, ils se font payer aussi en yuan. Et simplement, il faut que les deux banques centrales se réunissent une fois par an pour dire
pour
bon,
réconcilier.
Comment on peut. Donc, on n'a plus besoin. C'est la chose que je me tue à dire aux gens, mais qui ne sont pas les rendez-vous dans le nouveau monde. On n'a plus besoin de monnaie de réserve internationale. On n'a plus besoin de monnaie de réserve. Point barre.
C'est
fini.
C'est marrant parce que je lisais un article, je ne sais plus dans quel canard, qui disait oui, mais vous dites que le dollar ne va plus servir. Or, regardez comme la masse monétaire américaine est importante. Elle n'a jamais été aussi importante. Je dis justement, elle est aussi importante parce que plus personne en veut et que tout le monde s'en déleste et qu'elle sort de partout parce que...
Elle sort de partout et aussi parce que les États-Unis ont des déficits budgétaires et des déficits extérieurs absolument monstrueux et que les gens se retrouvent avec des dollars dont ils ne savent pas trop quoi foutre, quoi. Si l'or est passé de 1000 à 5000, c'est pas parce qu'il y avait pas assez, c'est parce qu'il y avait trop de dollars, tu vois, fallait bien... Donc, on voit bien qu'il y a trois choses qui se passent. On rentre dans une croissance ricardienne. Et les freins à la croissance ricardienne en Asie qui auraient pu se passer depuis très longtemps viennent de sauter. Donc, tout va se passer en Asie. Ce qui veut dire aussi que vous avez probablement trop de dollars et pas assez de monnaie asiatique. Donc, ces deux formes de croissance sont complètement différentes. Alors, qui va être les vainqueurs de cette-là, il n'y a pas de raison qu'il y ait des vainqueurs, je veux dire par là, c'est, comme je le dis aujourd'hui, je crois qu'il y a une quarantaine d'aéroports qui sont en train d'être construits en Inde, contre zéro en Europe. Bon, si tu bâtis 40 aéroports, c'est pas pour aller de Delhi à Madras, hein, tu vois ce que je veux dire, c'est pour te relier au monde. C'est-à-dire que l'Inde, ce qu'on appelle le sous-continent indien, là, est un pays assez étonnant parce qu'il avait assez peu de relations avec l'extérieur. Il était tout centré sur lui-même, quoi.
Ce qui est un peu logique quand tu peux te permettre quand tu as la taille de l'Inde d'être un peu centré sur toi-même.
Et puis ils avaient très peur de prendre des risques, etc. Mais à partir du moment où ils ont plus de risques du commerce extérieur pour leur souveraineté, tu peux penser qu'ils vont s'ouvrir, qu'ils ont intérêt à s'ouvrir et qu'ils ont des tas de choses à offrir, par exemple. Ils vont dominer toute l'industrie des logiciels dans les années qui viennent parce qu'ils ont tout ce qu'il faut pour ça. Donc tu te dis, l'Inde va être un immense gagnant. Et là, la semaine dernière, on avait montré que l'or était cher par rapport au marché des marques actions indiens. Donc, encore une fois, il ne faut pas oublier que le but d'un portefeuille, c'est de brancher, non pas de garder sa valeur, mais d'essayer d'augmenter ta valeur.
Oui, dans un monde idéal, sans trop prendre de risques.
Sans trop prendre de risques. Donc, dans une période où tu te dis, il n'y a que des coûts à prendre, tu te mets en or. Oui. Mais à partir du moment où les choses qui devraient monter deviennent très bon marché par rapport à l'or, tu te dis, dans le fond, les marchés surpayent l'absence de risque et sous-payent la rentabilité.
Oui, mais là c'est si tu te places dans l'analyse ricardienne du cercle de Valérie Pyris.
Voilà, c'est ça, tu te dis, ça va arriver, je ne sais pas quand ça va arriver. Mais le coup est parti, il est inarrêtable. Donc ça veut dire qu'on arrive au moment où, intellectuellement, il faut se préparer à basculer de la position sans risque vers un peu plus de risque dans les portefeuilles, c'est-à-dire augmenter la par action. Ce que tu peux faire en vendant un peu de l'or qui a triplé et en achetant les actions qui ont baissé de 20%, tu vois ce que je veux dire, c'est que du coup, même en gardant ta part d'or que tu avais au départ dans ton portefeuille, en valeur absolue, tu peux remettre pas mal de pognon dans les actions. Donc, on arrive au moment où il va falloir augmenter la part de risque dans les actions, et en Inde et en Chine. Bon, ça, c'est un élément important. Et si j'ai raison, et si ce qu'on a dit tout à l'heure, l'intelligence artificielle exige des capitaux immenses, ce qui est le cas, le développement de Valérie Pierry, ça va exiger des capitaux immenses aussi, parce qu'il faut les bâtir, les routes, les hôpitaux.
Bien sûr.
Donc aussi bien la croissance schumpeterienne aux États-Unis que la croissance ricardienne ailleurs va requérir plein de capitaux, plein de pognon. Et donc, taux d'intérêt vont monter, non ?
Est-ce que ça s'est déjà produit qu'il y ait une aussi grande croissance schumpeterienne avec une aussi grande croissance ricardienne côte à côte ? Parce que là, si les États-Unis véritablement performent, on ne sait pas, à l'heure où on parle, si l'IA va véritablement délivrer la promesse qu'elle a annoncée. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a des enjeux peut-être surréalistes.
Ça s'est produit un petit peu. Oui, ça s'est produit au moment où les bateaux à vapeur sont arrivés et où tu as eu une immense croissance ricardienne qui venait du fait que d'un seul coup, le blé d'Argentine ou le blé des États-Unis pouvait venir nourrir l'Europe, quoi. Parce qu'autrefois, il fallait 3 mois en bateau, et là, il fallait 15 jours, et c'était régulier, il n'y avait pas de problème. Donc, il y a eu une immense...
Et une croissance de connaissances, donc schumpeterienne de rupture, et à la fois une croissance ricardienne.
Exactement, l'invention de la machine à vapeur a déclenché une croissance ricardienne gigantesque. Parce que d'un seul coup, on pouvait relier des gens dont on n'espérait pas qu'ils seraient jamais reliés. Et la même chose va se produire en Asie, parce que avec l'ouverture, tu sais, des couloirs verticaux dont j'ai parlé de la Russie vers l'Inde, comme ça, là, les qui descendent, qui amènent des matières premières, pour la première fois, tout ce qui est au nord de l'Himalaya va être utilisé au sud de l'Himalaya sans trop de difficultés. Tu vas contourner l'Himalaya, mais enfin ça... Et sans passer par la mer. C'est-à-dire que d'un seul coup, le bloc continental d'Asie va faire du commerce sans avoir à passer par la route de la soie maritime qui descendait de la Chine, qui passait par Singapour, qui arrivait en Inde, qui passait là, puis qui arrivait dans les pays arabes, et puis ensuite ça remontait, puis ça arrivait chez nous. Mais c'était... Enfin, je veux dire, ça passait. Tandis que là, ça repassera par des lignes de chemin de fer, et ça va être gigantesque. Donc... Oui, ça s'est déjà produit, mais ça s'est produit avec des taux d'intérêt réels qui étaient très élevés. Parce que la rentabilité du capital étant très élevée, or aujourd'hui, les taux réels en France sont...
Mais c'est quelque chose qu'on oublie, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on avait fait l'émission sur Napoléon et d'autres, c'était la divergence à cette époque-là des prêts entre la France et la Grande-Bretagne. Et on oublie qu'à l'époque, le coût du capital était exorbitant.
C'est-à-dire, pour deux raisons.
À l'époque, Cantillon...
À l'époque, c'était tout ça. Pour deux raisons, c'est que les marchés financiers britanniques, la City, a été organisée tout de suite. Donc, c'est bien. Donc, le coût du capital pour l'État anglais lever du pognon dans le marché financier était assez bas. Alors que le coût du capital en France pour lever du pognon, c'était hors de prix parce qu'il fallait aller toucher le petit bourgeois
de Carpentras,
n'importe où. Donc c'était très cher. Donc il y avait à peu près 200 points de base, c'est-à-dire 2 points d'intérêt, de différence de coût entre les États-Unis, entre la Grande-Bretagne et donc la Grande-Bretagne pouvait mobiliser des ressources financières beaucoup plus facilement.
Ce qui est fondamental.
Qui va être dans une guerre, tu penses.
Et aujourd'hui, tu es l'Inde, peut-être que tu as un accès au capital par l'or beaucoup plus élevé.
Alors justement, la grande question de l'Inde, j'en ai souvent discuté avec des Indiens qui sont venus nous voir ici, je leur ai dit, votre grande question, c'est comment vous pouvez... Les gens ne vont pas vouloir se dessaisir de leur or. Parce qu'ils vont dire, non, ça c'est... Je ne suis pas confiant dans votre monnaie, je n'ai pas confiance en vous.
Oui, c'est peut-être une dot aussi.
Oui, c'est peut-être une dot, et puis c'est la machine qui... Ça permet de survivre. Donc, ce que pourrait faire l'Inde, c'est essayer de faire d'emprunter l'or, en quelque sorte, pour faire des centrales nucléaires ou je ne sais pas quoi, puis une fois qu'elles sont faites, de rendre l'or. Tu vois, de façon à... Tu te dessaisis de ton or pendant 5 ou 10 ans pour avoir une centrale.
Ah, mais on te donne quoi, un bout de papier?
Ben, on te donne un bout de papier en disant, vous allez toucher 3% sur votre machin, vous avez mis 10 kilos d'or, et dans 20 ans, on vous rend 10 kilos d'or.
C'est moins chic dans le chignon, quand même.
Ouais, c'est moins chic dans le chignon, mais tout n'est pas dans le chignon. Alors, mais tu as raison, c'est moins chic dans le chignon. Et puis, en même temps, tu n'es pas sûr, un papier, est-ce qu'ils vont me les rembourser, ils vont changer, bref. Alors ça, c'est un peu difficile, mais en effet, l'Inde a d'immenses réserves d'épargne, et qui sont, pour l'instant, investies uniquement dans les trucs stériles.
Ah.
Ben l'or.
Oui.
Ça sert à rien, ça. L'or, t'as ton kilo d'or.
Ah bah c'est pas ça qui va te faire les routes, hein.
C'est pas ça qui va te faire les routes, c'est pas ça qui va faire de l'énergie. Donc la question, c'est, ils ont cette immense épargne domestique, comment peuvent-ils la transformer en une épargne? Alors la France avait fait quelque chose d'astucieux, c'est qu'elle avait fait des... Avec Pinet, elle avait fait des emprunts de 2,5 ou 3% or. 3%, 4%, t'avais un coupon qui était indexé sur l'or, et puis tu étais remboursé en or à la fin, si tu voulais, quoi. C'est ce qu'ils pourraient faire aussi. Ça serait assez... Et en plus, là où ils avaient été très rusés, Pinet, c'est qu'il avait dit, celui qui a du Pinet, quand il meurt, il n'y a pas de droit d'héritage dessus.
C'est génial, ça.
Et donc, ce qui se passait, c'est que d'un seul coup, il ne se passait rien, tu vois, puis d'un seul coup, vous voyez le cours du Pinet monter comme une fusée, tout le monde se disait, il y a un type riche qui est en train de mourir. C'est qui? Mais ça ratait pas, hein. Mais donc ça, l'Inde pourrait le faire assez facilement. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que la croissance ricardienne doit développer de façon fantastique les marchés financiers, et en particulier les marchés financiers obligataires.
Alors, de ta connaissance, bon, de la Chine, je pense que la réponse
est... Ça s'est fait pour la Chine, oui.
Mais de ta connaissance des gens en Inde et, bon, dans les autres pays adjacents, est-ce que tu penses qu'ils ont, en interne, les banques centrales, les
officiers ? Ils ont tout compris.
Oui ?
Ils ont tout compris, parce que je
regarde... Donc ça pourrait venir vite, en vrai.
Ça pourrait venir vite, parce que je regarde, tu prends la question, tu te poses la question...
Parce que je sais que tu es en contact avec des gens dont je n'aimerais pas, mais je me dis, est-ce qu'en vrai, ils vont avoir les reins assez solides?
Mais ils en passent. C'est déjà en train de se mettre en place. Parce que je regarde, tu te dis, est-ce que j'achète un 10 ans chinois qui me donne du 1,3 ou est-ce que j'achète un 10 ans indien qui me donne du 6,5? Allez. Alors tu te dis, ben, je sais pas, parce que si j'achète du 6,5, la monnaie ici va probablement se péter la gueule contre celle-là. Donc en fin de parcours, j'aurai peut-être moins avec 6,5 que je n'ai avec 1,3 ici, tu vois. Et ben tu vois que depuis 7 ans à peu près, 8 ans, les deux sont parfaitement équilibrés. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est en train d'arbitrer les marchés, et ça ne peut être que les banques centrales indiennes, et sans le dire à personne, pour que la liquidité du marché chinois se transporte à l'Inde, sans pour réduire le risque des Indiens qui achèteraient leurs obligations. Et ça veut dire aussi qu'à terme, les obligations indiennes vont voir leur taux baisser vers les taux indiens. C'est-à-dire qu'on commencera à 6 et dans 20 ans, on sera à 1, quoi. Tu vois, comme les obligations chinoises, quoi. Donc on voit, de façon sournoise, si j'ose dire, parce que personne n'en parle, à part moi, on voit l'organisation des marchés se mettre en place pour qu'il y ait une zone de stabilité monétaire à peu près convenable qui se produise. Mais tu vois ça avec toutes les monnaies asiatiques. Donc la volatilité des taux de change s'est décrue de façon considérable dans tous ces pays. Donc tu vois émerger, en effet, un pouvoir financier entre l'Inde et la Chine qui stabilise les deux marchés l'un vis-à-vis de l'autre, ce qui est gigantesque, parce que tout le monde dit, mais ils se détestent et tout. Oui, ils se détestent peut-être, mais ils aiment bien hein, tous les deux, que leur pays marche bien, quoi. Donc,
Oui, alors ça, bien sûr, on peut se détester, mais ça n'empêche qu'on aime bien voir ses enfants avec des pyjamas neufs, donc
Et aller dans des bonnes écoles, et quand t'appuies sur le bouton, il y a l'électricité.
Non, enfin, toutes ces choses qui font qu'on se déteste un peu moins quand même.
On se déteste un peu moins.
On se mettra un peu plus dessus au rugby, et puis voilà, c'est tout.
Voilà. Au moment des matchs de foot, on se dira des choses horribles, mais on s'en fout, ça. Donc, tu vois ça émerger, et je vais dire un truc un peu bête, il y a une expression en anglais qui dit « The sky is the limit », tu vois, le ciel est la limite. Si ça se passe, la croissance de ces économies et de ces marchés, peut-être, mais on n'a même pas idée de ce qui va se passer, quoi. J'ai reçu ce matin un homme que j'aime bien qui vit dans la région de Limoux, vous savez, là-bas.
On fait la fameuse blanquette de Limoux.
Ils nous ont amené d'autres bouteilles, d'ailleurs. Je le remercie, c'était très bien.
Oui, parce que c'est le salon
des
vins.
Mais en même temps, ils viennent s'acheter une BYD. C'est une voiture chinoise. Ouais. Mais si quelqu'un à Limoux s'achète une BYD, et il me dit, c'est prodigieux, c'est beaucoup mieux, c'est comme une Porsche Cayenne, mais ça coûte le quart du prix, quoi. Eh ben, tu dis qu'ils n'ont pas fini de nous tailler des croupières. Donc, cette croissance ricardienne, à mon avis, ça va être la grande histoire des 20 ans qui viennent, quoi. Et le centre, ce sera Hong Kong. Il n'y a pas de doute.
Alors, plus Hong Kong ou plus Singapour pour toi?
Singapour, c'est l'endroit. Alors, Hong Kong, c'est la monnaie chinoise, puisqu'ils ont deux monnaies. Hein, c'est souvent ce que j'ai expliqué. Singapour, si j'ose dire, si je devais être parfaitement cynique, je dirais tu mets ton argent en dépôt à Singapour parce que c'est pas chinois. Enfin, c'est chinois, mais c'est pas chinois. Tu vois, ils sont pas sous le contrôle. L'armée chinoise va pas les envahir. Donc, la conservation de tes titres, tu le fais à Singapour. Mais tu en donnes la gestion aux types à Hong Kong qui sont beaucoup plus malins, quoi.
D'accord.
Ça sera comme la City et Zurich, si tu veux. Tu vois, l'UBS, ils ont tous leurs trucs, un petit en dépôt à Zurich, ça, ben ils savent faire tourner les trucs, c'est bien géré, ça. Mais si tu veux des gamins pour gérer ton pognon, tu vas dans la City parce que...
Oui, c'est pas les mêmes métiers.
Et c'est pas les mêmes gens. C'est, d'un côté, t'as des administratifs, de l'autre, t'as des cinglés. Donc, moi, j'ai toujours une grosse préférence pour les cinglés.
Bah, il y en a qui font tourner des tableurs Excel, et puis il y en a d'autres qui think outside the box, qui pensent en dehors de la boîte. Et c'est pas les mêmes profils, en vrai.
C'est pas les mêmes profils, et c'est pas du tout pareil.
C'est pas grave, hein. C'est bien d'avoir des gens qui savent bien faire les trucs carrés, voilà, quand on en a besoin. Et puis d'autres qui sont peut-être un peu plus créatifs avec les...
Créatifs et aventureux et...
Intuitifs,
et qui en effet cherchent non pas d'avoir une administration parfaite, mais c'est comme dans la City à Londres, si vous voulez. Je raconte toujours cette anecdote parce qu'elle est vraie, c'est qu'en 60, c'était en 87, il y avait eu le crack, donc tout s'était écroulé. Le marché en baisse de 40%, c'était affreux. Et puis, en même temps, à Londres, il y avait eu une épouvantable tempête qui avait fait tomber tous les arbres, etc. Et quand je suis arrivé à la City lundi matin, parce que c'était passé pendant le week-end, comme toujours, tous les types étaient effondrés, non pas parce que le marché s'était pété la gueule à 40%, mais parce qu'ils avaient perdu des arbres centenaires, tu vois, c'est-à-dire...
Parlons des choses importantes.
Parlons des choses importantes. Et oui, c'est que l'argent, ça reviendra, alors qu'un arbre, il faut 200, 300, 400 ans pour qu'il pousse. Donc, il y a une espèce de... En quelque sorte, pour être un bon financier, il faut penser que l'argent n'a pas d'importance. Ce qui est quand même un... Si tu penses que l'argent est important, tu deviens banquier. Mais si tu penses que... Si tu as envie de rigoler et de prendre des risques, eh ben... Donc, ça va être une zone d'expansion phénoménale. Alors, je ne l'ai pas amené ici, mais j'ai fait un autre graphique qui monte la ligne noire, là, vous voyez, qui monte, qui baisse en bas, la ratio entre les deux, là, vous voyez. Ben, si vous mettez l'indice des valeurs industrielles européennes, dont j'ai souvent parlé, le MSCI, grande valeur industrielle, etc., où la France a 26% de l'indice, c'est le même indice. C'est le même ratio. C'est-à-dire que si vous pouvez acheter un ETF bourse chinoise, ou vous pouvez un ETF MSCI valeur industrielle européenne, vous aurez la même performance. Pourquoi ? Parce que ces gars-là, ça fait littéralement des siècles, qui font dans leur croissance industrielle, qui bâtissent des routes, qui bâtissent des hôpitaux, qui bâtissent des aéroports, tu prends l'aéroport de Paris, ben, tu vois, il n'y a personne qui sait mieux faire des aéroports que la société des aéroports de Paris. Et donc, tu te dis, bon, ben, si je suis un gros flemmard et que je veux mettre des trucs dans mon PEA, vous pouvez en effet mettre des affaires industrielles françaises, Saint-Gobain, Schneider, Air Liquide, etc.
Total.
Total. Et vous aurez le même résultat que si vous aviez été, si vous avez acheté l'ETF chinois, ce qui est rigolo quand même.
Après, il ne faut pas se rater dans l'évaluation des sociétés en question. Il faut vraiment trouver, regarder ces sociétés qui vont chercher la croissance en Asie et qui ont ce savoir-faire.
Et mais qui elles sont déjà là, on les connaît, on sait qu'elles sont plus en France. Ça,
oui,
c'est sûr.
Et qui ne sont pas dépendantes non plus du gouvernement français. Ah bah ça, c'est un critère hyper important, on ne le dira jamais assez.
Ah, oui, ça, non, vous n'allez pas acheter Carrefour parce que ça n'a aucun rapport, mais vous pouvez en effet acheter Total, vous pouvez acheter. Donc, si vous voulez, il y a deux façons de le jouer, un ETF industriel européen ou un ETF chinois. Mais. Vous pouvez mettre un petit peu des deux, vous voyez ce que je veux dire, parce que de temps en temps, mais vous jouez la même chose. Vous jouez une croissance ricardienne.
Je pense comme ça, parce que c'est mon train of thought, mais des sociétés comme Mulier, qui ont très bien fonctionné ces dernières années, parce qu'elles ont été... Attends que j'aille jusqu'au bout. Parce qu'elle se bâtissait sur une croissance européenne, quelque part, que nous, Français, on consomme chez Leroy Merlin, qu'on consomme chez Auchan, qu'on consomme... Je me rends compte que de plus en plus, Auchan ferme tous ses centres commerciaux et ainsi de suite. Peuvent-elles encore exister dans un avenir où l'Europe décroît avec autant
de... Il y a 10 ans, il y avait le patron de Carrefour de l'époque qui m'avait téléphoné en me disant « Est-ce que je peux vous voir ?» Oui, je lui ai dit « Bien sûr ». Et donc je l'avais vu, il m'avait dit « Qu'est-ce que vous pensez de Carrefour ?» Ben, je lui avais dit « Vous allez faire faillite dans les 10 ou 15 ans qui viennent ». Et il en parle encore à ce jour en disant « C'est le type qui je voulais offrir un contrat et qui m'a dit que je serais plus là dans 10 ans ». Mais ça, c'est la création destructrice. Aujourd'hui, si tu veux, on n'a plus d'enfants, on n'a plus de famille, tu remplaces les Carrefour par... le Carrefour du coin de la rue, quoi, par des petits machins.
Certains l'ont fait.
Mais tu ne gagnes pas la même chose. Non,
Des économies d'échelle incroyables.
Tu n'as pas des économies d'échelle.
Moi, je me souviens, quand on était petit, le premier Leclerc qui a ouvert à Toulouse, on y allait religieusement en famille avec les deux voitures qu'on bourrait jusqu'au coffre Azibus, avec les trucs premier prix.
Ça avait tué tous les petits commerçants.
Les boîtes blanches Ricover, machin. Bon. De petits pois et le lait qu'on stockait et ainsi de suite, mais ça avait été absolument révolutionnaire.
Révolutionnaire, ça avait été toutes les grandes surfaces et ça avait fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, tu vois que le centre-ville d'Avignon, il n'y a plus personne. En plus, ils ont tout fait.
Il n'y a que des punks à chiens et ça sent la pisse. Pardon.
Il n'y a plus rien. Et puis.
Sauf l'Hyperlux, un peu à droite, mais.
Et puis tu vas. La rue tu sors de là et tu as des grands centres. Où il y a tous les magasins. Donc, c'est des espèces de centres-villes qu'on a exportés en dehors de la ville pour que les gens puissent y venir en voiture. Ouais. Donc, ça a été une révolution extraordinaire.
En leur disant que c'est dégueulasse de prendre la voiture et que c'est des groupes looks.
Quand tu vas chez Auchan à Avignon, ils ne disent pas ça. C'est quand tu vas dans le centre-ville que du coup, il n'y a plus une boutique parce qu'on t'empêche de venir en voiture. Donc, ça, c'est sympa.
Une fois, je me suis garé pendant le festival, je ne sais plus pourquoi, j'en ai pour 55 euros.
Oui. Ah ben en plus la prise des... Donc ça c'est d'autres choses, c'est que eux ça a été une révolution schumpeterienne un peu et les gens comme Mulliez l'ont très bien vu et l'ont très bien pris. Ça c'est fini en Europe, mais ça en France ça va peut-être venir en Asie. Mais ils ont pas, ils ont essayé des gens comme Carrefour de se coller au Brésil ou en Chine, mais ça marche pas parce que c'est pas. Il faut avoir des bonnes acquaintances avec les pouvoirs locaux et tout, c'est pas toujours facile. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire, c'est que honnêtement, je crois qu'on est en train de rentrer dans une période de croissance phénoménale dans le monde. Nos systèmes politiques sont complètement obsolètes, donc ils ne servent à rien. Mais par contre, vous avez cette chance incroyable d'avoir des très belles sociétés françaises dans le domaine industriel, qui va faire des routes, des ponts, des hôpitaux, des aéroports, tout ce que tu peux imaginer. Et c'est ça qu'il faut avoir. Et si vous voulez prendre un peu plus, vous achetez un ETF chinois. Et si vous voulez vraiment vous amuser, vous achetez un ETF indien. Quoi. Tu vois ce que je veux dire, c'est... Mais je crois honnêtement que le coup est parti.
D'accord.
Le coup est parti et ça me paraît difficile, il est inarrêtable.
Bon, de toute façon, pourquoi voudrait-on l'arrêter ?
Ben, personne ne veut l'arrêter. Mais ils essayent de créer des conflits, etc., les suspects habituels entre l'Inde ou le Pakistan et tout, mais ça s'arrête tout de suite parce que personne n'y a intérêt. Quoi.
Ouais.
Voilà, donc pour moi, c'est... Je répète ce que j'ai souvent dit. Go East, young man, quoi. Va vers l'Est, jeune homme. C'est-à-dire qu'il y en a tout un tas qui viennent me voir, et je leur dis, faites-vous embaucher, si vous êtes des ingénieurs en particulier, faites-vous embaucher par ces grandes sociétés, allez vous balader là-bas, et puis quand vous aurez bien compris comment ça marche, le cas échéant, ben vous créez votre propre boîte et vous vous dépatouillez. Mais en effet, c'est faisable. Aujourd'hui, il y a une nouvelle poche de croissance qui s'ouvre, et qui, c'est-à-dire pour la moitié de la population mondiale, on rentre dans les 30 glorieuses. Quoi.
Ça va être bien pour eux ?
Et pour les jeunes de chez nous qui sont là-bas. Il ne faut pas oublier que nous, à ce moment-là, si on a aspiré tous les Espagnols, tous les Portugais, tous les Algériens qui voulaient, tellement on avait besoin de travailleurs. Voilà.
Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette émission vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous. Et en ce qui nous concerne, on vous dit la semaine prochaine. Merci.
Merci infiniment.